va continuer ces conversations que nous avions entamées la semaine passée. Souvenez-vous, Daniel Haber avait commencé à faire des liens entre les accords d'Abraham et les accords de paix de Sharm el-Sheikh le mois passé. Il continue donc son analyse sur ce sujet au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous en ce matin pour nos traditionnelles conversations. Alors la semaine dernière, Daniel, on avait lancé la discussion sur le Kazakhstan et le fait que le Kazakhstan rejoigne les accords d'Abraham. On avait tout de suite connecté les accords d'Abraham aux accords de paix de Sharm el-Sheikh. Revenons-y avec vous, si vous le voulez bien. Quelle est l'importance des accords de Sharm el-Sheikh? En fait, reprenons tout depuis le début et l'importance de ces accords.
Écoutez, ces accords de Sharm el-Sheikh sont une nouveauté dans la région. Au fond, les derniers grands accords, quand on regarde, c'est les accords d'Oslo de 1993 et qui étaient focalisés sur la question palestinienne. Et c'était ça l'erreur, parce que elle n'a pas de solution facile. Et on est arrivé quand même à une grande négociation de l'année 2000 autour de Clinton, Barack, Ehud Barak et Arafat, qui avaient en fait défini les conditions de deux États, et Arafat n'a pas signé. Comme disait Shimon Peres, les Arabes ne ratent jamais une occasion de rater une occasion. Et donc, depuis, cette question palestinienne, elle est mise de côté, et comme je l'ai eu l'occasion de vous le dire ici à conversation, elle a été prise en main en fait par les Iraniens, à travers le Hamas. Et donc, ces accords de Sharm el-Sheikh, ils sont importants d'abord parce qu'ils ont été signés par beaucoup de pays. Il y avait l'Égypte et la Jordanie, enfin, il y avait beaucoup de pays arabes, hein, l'Égypte, Jordanie et l'Arabie Saoudite, et les États Arabes Unis. Il y avait aussi des États qui ne sont pas arabes, mais qui sont de la région, comme la Turquie, le Qatar était là. Et il y avait aussi des pays musulmans qui sont hors du Moyen-Orient, comme justement le Kazakhstan, qui n'était pas là, mais il y avait l'Indonésie, il y avait l'Azerbaïdjan, et puis il y avait des Européens. La France était là, et d'ailleurs la France continue à vouloir participer à tout ça, pas toujours de façon habile. Donc c'est des accords très larges, où la question palestinienne, elle est secondaire, elle est intégrée à l'ensemble des accords. Et donc, ça veut dire, au fond, que dans le cadre de ces accords de Sharm el-Sheikh, la question palestinienne, elle est d'abord réintégrée dans le monde arabe. Elle est enlevée des mains des Iraniens qui conduiraient à l'impasse. Et deuxièmement, elle est posée en tant que question, mais on n'apporte pas de solution. On ne parle pas de solution à deux États. On parle d'abord de stabiliser Gaza par justement une force de stabilisation. Puis après, on dit on verra sur la phase 3. Donc cet accord est tout à fait nouveau. Il est très large et donc il ne met pas la centralité sur la question palestinienne, et c'est pour ça qu'il y a une chance de succès. Alors, il faut rappeler qu'elle a trois phases. La phase 1, c'est celle qui est en cours, qui consiste à retrouver tous les otages contre des prisonniers terroristes et contre un retrait partiel de Tsahal, mais avec des garanties américaines pour que Tsahal n'attaque pas le Hamas au cas où le Hamas se comportera bien, ce qui n'est pas le cas. Hein. Et donc cette phase 1, elle a des bons côtés. Les 20 otages, d'abord, ont été tous retrouvés vivants et finalement sont en bonne santé, physique au moins. Et donc la question, c'est plutôt la récupération des cadavres. Et évidemment, le Hamas joue au jeu de chat et la souris, comme tous les groupes terroristes islamistes le feront toujours. Donc faut pas se faire d'illusions. Mais pour l'instant, Israël maîtrise cette phase, puisqu'elle ne rendra pas de terroristes si on ne lui rend pas les corps qui manquent, et elle ne s'éloignera pas de cette ligne jaune qui partage Gaza en deux et qui permet à Tsahal d'être extrêmement présent à Gaza tout en étant en partie en retrait. Donc cette phase 1, Je pense qu'elle prendra un petit peu de temps, mais elle va se terminer. La phase 2, c'est la phase essentielle, c'est le désarmement du Hamas. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut désarmer le Hamas. Et donc, ça ne peut se faire que par cette force de stabilisation. Et on voit bien que les États arabes, hésitent à être ceux qui composent cette force parce qu'ils veulent pas être en face de Palestiniens, parce que c'est d'autres Arabes. Et il y a des risques d'attentats, il y a des risques de conflit armé, hein, entre les forces de stabilisation et le Hamas, qui ne se laissera pas faire. Et donc, ils hésitent à cause de leurs opinions publiques. Et donc, on va probablement avoir recours à des gens qui sont extérieurs au Moyen-Orient et qui sont pas arabes, donc l'Indonésie, l'Azerbaïdjan, d'autres sans doute. Le problème avec cette force de stabilisation, c'est qu'il faut qu'elle soit bénie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc ça prend du temps. C'est en cours de discussion, la résolution, enfin la décision qui sera prise par le Conseil de sécurité est en ce moment en cours de négociation. Il n'y aura pas de vote avant le mois de janvier à cause des fêtes qui arrivent, et donc on va rester dans une période donc de vide, où il n'y aura pas de force de stabilisation, et donc la partie libérée de Gaza, elle est aux mains du Hamas aujourd'hui. Le Hamas parade, le Hamas crie victoire, le Hamas exécute, soi-disant des traîtres, et surtout essaie de mettre la main sur la distribution de l'aide humanitaire. Donc, c'est pour ça que tout ça est assez compliqué. C'est pas très bon pour Israël parce que ça l'oblige à mobiliser des troupes. Ça alimente évidemment la diabolisation d'Israël parce qu'il y a toujours des morts, chaque fois qu'Israël réagit à des violations de cette phase par le Hamas, ce qui est quasiment quotidienne. Mais donc il faut être patient. Faut être patient, il faut attendre. Alors le plus important, c'est cette phase 3, c'est-à-dire l'espoir de paix.
Oui, justement, cette phase 3 et ces accords de paix, est-ce qu'ils ont vraiment une chance d'aboutir? Vous avez cité Shimon Peretz. On a souvent fait face à ce genre d'accord, face à des échecs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance d'aboutir?
Alors, d'abord, cet accord, il est nouveau. Ensuite, il est soutenu par Trump, dont on connaît la détermination. Elle est soutenue par tous les États arabes, qui ne veulent plus entendre parler du Hamas et qui veulent, justement, c'est ça, c'est le lien avec les accords d'Abraham, trouver un lien avec Israël. Parce que finalement, cet accord de paix, si on réfléchit bien, consiste à avoir un lien très fort entre Israël et tous les États arabes, garanti par les États-Unis, face aux deux autres États, aux deux autres peuples qui dirigent ou qui essaient de dominer le Moyen-Orient, qui sont les Perses et les Turcs. Les Perses, ils sont hors jeu, ils veulent parler avec personne, ils veulent acquérir leurs bombes, et on sait qu'il y aura certainement des interventions armées nouvelles, même si l'Iran se protège davantage. Et il reste le jeu de la Turquie, qui est un jeu pervers, puisqu'il est à la fois pro-occidental et un des soutiens presque le plus important de l'islamisme, qui est anti-occidental. Donc il faudra un jour résoudre cette question assez étrange. Et donc il faut créer dans le Moyen-Orient une base solide. Et cette base, c'est Israël plus les pays arabes, avec la garantie américaine. Alors, est-ce que ça a une chance de réussir? On connaît le scepticisme de tout le monde, y compris des Israéliens. Et donc la vigilance sera de mise, et le renforcement de la sécurité en Israël sera évidemment la centralité de la politique israélienne. Mais quand même, il y a des espoirs parce que tous sont d'accord pour dire que il faut en finir avec le Hamas, parce que avec le Hamas, il n'y a aucune solution à la question palestinienne. Donc cette question palestinienne, elle sera traitée sans le Hamas à l'intérieur de cet ensemble Israël pays arabe, et elle sera traitée avec le temps, parce qu'il faut beaucoup de temps avant d'avoir des conditions propices à la naissance éventuelle d'un État. Vous voyez, on prend des précautions, et donc l'idée de qui est en filigrane de tout ça, c'est une sorte de mandat, ou de tutorat des pays arabes sur l'ensemble de ces territoires, Gaza plus Cisjordanie. Et donc, ce que fait Trump aujourd'hui, c'est calmer le jeu en disant à Israël, pas d'annexion en Cisjordanie et pas de retour à Gaza d'implantation. On laisse les choses en l'état et on les aggrave pas et on donne des perspectives parce que c'est ça que demandent les pays arabes. Ils veulent des perspectives de la solution palestinienne, non pas qu'ils en aient envie, mais parce qu'ils doivent satisfaire leurs opinions publiques. Donc, il faut gérer le temps. C'est une question de patience. Et au Moyen-Orient, bon, le temps quand même, on sait le gérer. Donc, moi, je suis personnellement plutôt optimiste avec beaucoup de gens autour de nous parce que je pense que les forces qui veulent la paix sont plus fortes que celles qui vont l'empêcher. Mais on l'a vu dans le passé, des attentats, des initiatives prises par les ennemis de la paix, ils sont nombreux parmi le mouvement islamisme mondial, donc on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. Donc, c'est un optimisme mesuré, mais je pense que il faut simplement avoir la patience de finir cette phase 1, d'entreprendre la phase 2, qui est le désarmement du Hamas, et de s'acheminer vers, au fond, l'extension des accords d'Abraham, largement au-delà même du Moyen-Orient.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Haber. On reviendra évidemment sur tous ces sujets dans nos prochaines conversations. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.